Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
L'hydroxychloroquine n'en finit pas de diviser. En fin de semaine, des dizaines de scientifiques critiquaient publiquement la méthodologie et les données fournies par une étude publiée dans la prestigieuse revue The Lancet le 22 mai. Une étude selon laquelle l'hydroxychloroquine utilisée chez des malades atteints de la Covid provoquait des risques accrus de mortalité. Pourquoi cette étude a-t-elle suscité la controverse et comment a-t-elle été réalisée? La confusion règne depuis des semaines sur les effets de l'hydroxychloroquine face au coronavirus. Comment apprécier la valeur scientifique des recherches sur les médicaments? Bonjour Catherine Hill.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste et c'est important de le souligner, vous êtes également biostatisticienne, ancienne chef du service de biostatistique et d'épidémiologie de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Alors tout d'abord, expliquez-nous quels sont les différents types d'études qui sont mobilisées pour tester des médicaments.
Eh bien, l'idéal, c'est d'avoir des essais, plusieurs si possible, dans lesquels, après tirage au sort, la population a été divisée en deux groupes par tirage au sort. Donc, au départ, ils sont complètement comparables. Un groupe reçoit le traitement expérimental et l'autre groupe reçoit, dans le meilleur des cas, un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble exactement au traitement expérimental, moins le produit actif. Et puis, on les suit. Et encore, dans l'idéal, les médecins qui les traitent les patients ne savent pas dans quel groupe les patients sont pour interpréter les symptômes d'une façon complètement objective. Et puis, il y a un comité de surveillance qui surveille les résultats pour que, si tout d'un coup ça devenait tragique ou magique, on arrêterait. Mais les investigateurs ne savent rien. Et à la fin de l'étude, on publie les résultats. Ça, c'est vraiment la règle d'or, le système idéal. Mais on peut aussi faire des études d'observation. Et le papier du Lancet est une étude d'observation, c'est-à-dire que c'est juste un recueil des données de patients qui ont été traités par l'hydroxychloroquine et d'autres qui n'ont pas été traités par l'hydroxychloroquine. Et on n'est pas certain que ces patients, traités et pas traités, soient pareils. Même on est certain qu'ils ne sont pas pareils.
Alors là, il s'agit d'une étude sur un très grand nombre de cas, Catherine Hill, et l'une des critiques qui a été adressée à cette démarche consiste à dire finalement qu'il y a tellement de cas que on essaye de lisser, d'avoir une approche homogène de situations en réalité très hétérogènes.
Non, on peut pas dire ça. Ce que les auteurs ont fait, en fait, ces auteurs travaillent depuis longtemps apparemment sur les risques cardiovasculaires. Les risques cardiovasculaires sont maintenant très faibles. Les gens qui ont un infarctus et qui sont hospitalisés guérissent dans une énorme majorité de cas. Donc, si on veut surveiller les risques à l'hôpital de la prise en charge des maladies cardiovasculaires, il faut énormément de données. Si on a juste 1000 patients, on va avoir 0 ou 1 embêtement. Et donc, ces gens-là aspirent les données de 671 hôpitaux dans le monde, beaucoup aux États-Unis, la majeure partie aux États-Unis, à peu près 550 aux États-Unis, et puis 50 en Europe, et puis en Afrique, en Asie, etc. Et donc, ils aspirent toutes les données sur tous les patients, sans aucun tri. Mmh. Et donc là, ils ont juste sélectionné les 96 000 patients qui étaient traités pour Covid-19 dans ces 671 hôpitaux. Et ils ont beaucoup d'informations sur ces patients. Ils ont le sexe, l'âge, l'indice de masse corporelle, ce qu'ils prennent comme médicaments déjà, ce qu'ils ont comme maladie antérieure. Et puis, ils les ont séparés en 5 groupes, traités par hydroxychloroquine plus antibiotiques, traités par chloroquine plus antibiotiques, traités par hydroxychloroquine seul, par chloroquine seul, et puis enfin, pas traités. Ce sont les témoins. Il y a 81 000 témoins. Mmh. Donc, et puis, ils ont étudier le risque de décès dans les 4 groupes traités et dans le groupe témoin en ajustant l'analyse de 2 façons. Une par un modèle statistique dans lequel on rentre toutes les variables et on regarde lesquelles augmentent le risque de décès. Par exemple, avoir un antécédent de diabète ou être plus âgé ou être obèse. Et aussi, ils ont trouvé que toute chose rendue égale par ailleurs par le modèle statistique, les 4 traitements étudiés augmentaient le risque de décès assez nettement, de 45% pour l'hydroxychloroquine plus antibiotiques.
Et alors, c'est la raison pour laquelle, Catherine Hill, ce médicament, finalement, a été rejeté par le ministère de la Santé en France. Une question, vous dites beaucoup de données, mais alors tellement de données qu'il y a des données sur l'origine ethnique des patients en France qui est strictement interdit, et du coup, ce qui jette évidemment un doute sur ces données tellement savantes qu'elles contiennent des choses qui ne sont pas recueillies en France.
Non, il n'y a pas de données sur l'origine ethnique des patients en France, parce que ces données dans les hôpitaux français n'existent pas, c'est interdit. Et il y a des données sur l'origine ethnique seulement dans les pays où c'est autorisé. Et comme la majorité des données viennent des États-Unis, c'est pour ça que ces données apparaît l'information qu'être noir ou d'origine hispanique est associé à une mortalité plus élevée et être asiatique est associé à une mortalité moindre. Ça vient des données des États-Unis. Les patients européens, j'imagine, sont juste mis dans la catégorie de référence, c'est-à-dire ethnie caucasienne ou inconnue.
Toujours parmi les critiques adressées à cette étude, Catherine Hill, il y a un certain nombre d'erreurs de codage. Je dis erreurs, c'est à minima des erreurs, en tout cas des choses qu'on ne comprend pas, par exemple des hôpitaux australiens qu'on a du mal à identifier, voire qu'on ne parvient pas du tout à identifier. Il y a également un certain nombre d'interrogations sur les sources. Bref, c'est 96 000 patients. D'où viennent-ils? Et alors, il y aurait une manière très simple d'évacuer tous les doutes, ce serait de rendre ces données publiques, comme cela, eh bien, les chercheurs pourraient les consulter. Oui, mais voilà, ça n'est pas le cas. Est-ce que ça n'est pas une manière quand même de susciter beaucoup de scepticisme sur le sérieux des données analysées?
Alors, deux choses. D'abord, il y avait des erreurs dans la première version du papier. Il y avait un hôpital qui avait été codé comme en Australie, mais qui en réalité était en Asie. Donc, cette erreur a été corrigée. Ensuite, il y avait des erreurs dans un tableau où il n'avait pas les bons chiffres, qui avait les chiffres qui étaient des résultats d'une analyse au lieu de donner les chiffres bruts. Et cette erreur a été corrigée. Et troisièmement, les auteurs, au début, ont refusé de donner accès à leurs données parce que ces données sont la propriété d'une compagnie qui... C'est un business, ils aspirent ces données de ces hôpitaux, ils les analysent, et ensuite j'imagine qu'ils les revendent à je ne sais pas qui, au laboratoire pharmaceutique. Mais maintenant ils ont compris que c'était une position intenable et les données vont être auditées par des chercheurs qui vont être, je ne sais pas, de l'OMS ou d'un laboratoire, par exemple des Anglais, puisque c'est une étude américaine. Donc cette affaire-là va être clarifiée. Ils ne veulent pas rendre publiques leurs données parce qu'elles sont leur propriété, mais ils veulent bien que quelqu'un vienne de l'extérieur, vienne les expertiser. Donc ça va s'arranger.
Et puis, toujours parmi les critiques qui sont adressées à cette étude, Catherine Hill, le professeur Raoult, qui dirige l'IHU à Marseille, considère qu'il y a un protocole très précis pour administrer les deux médicaments qu'il considère comme étant efficaces contre la Covid. Qu'est-ce qui dit que ces médicaments ont été administrés au bon moment à ces patients, à ces 96 000 patients, ou en tout cas la partie qui est soignée, notamment avec l'hydroxychloroquine?
Bon, alors, on peut toujours critiquer, et ça, c'est pas complètement faux. Ce sont des patients, ici, ces 96 000 patients sont hospitalisés. Simplement, ils ont sélectionné ces 96 000 patients sur le fait que le traitement est commencé dans les 48 heures après le diagnostic. Donc, sachant que ce sont des patients hospitalisés, c'est aussi tôt que possible. Ils ont été traités le plus tôt possible. Donc, ce ne sont pas des patients qui ont été traités après avoir été, par exemple, ventilés ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, les deux premières études du professeur Raoult portaient sur des patients hospitalisés. Et la troisième porte sur des patients hospitalisés ou en hôpital de jour. Donc, ce n'est pas si différent. Mais il y a une différence, en tout cas, c'est que certainement, les études du professeur Raoult ont sélectionné des patients qui venaient faire la queue devant son institut. Donc, il n'a pas eu des patients très âgés, très fatigués, très handicapés, avec des maladies associées, etc. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il ait des bons résultats. Il a pris des patients qui auraient guéri de toute façon.
Et puis alors, dernière question très rapide. Catherine Hill, est-ce qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait eu ce volte-face extrêmement rapide du ministère de la Santé sur l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire des réceptions pratiquement de cette étude? Eh bien, ce médicament a été interdit en France. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être, je ne sais pas, un peu plus prudent, pondéré en tout cas cette réaction?
Franchement, c'est une étude très bien faite qui montre que, un, le traitement ne marche pas du tout puisqu'il augmente la mortalité, et deux, qu'il est toxique parce qu'il augmente le risque d'arythmie cardiaque. Donc, quand même, on a conclu parfois sur des études, des données d'observation. On a, s'est aperçu que la dépakine donnée aux femmes enceintes était catastrophique. On n'a jamais fait un essai randomisé. Donc, on peut conclure sur des données d'observation. Ensuite, le gouvernement avait fait volte-face aussi parce qu'il avait autorisé l'association chez les patients graves, qui est exact. Donc, c'était une position intenable de continuer à autoriser l'administration à l'hôpital chez les patients graves de ce médicament, qui n'a pas l'air de marcher du tout et qui est toxique. Donc, et l'OMS a fait pareil, a suspendu les essais.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement français a pris cette décision, selon vous. Merci beaucoup, Catherine Hill. Vous êtes épidémiologiste et biostatisticienne. 7h24 sur France Culture.